est de retour au podcast Hyper Croissance, en mode discussion d'affaires. Et là, c'est la première fois que Jonathan, l'éveillé et moi, on enregistre un podcast en face à face parce qu'on est dans la même salle au moment où on se parle. On a la chance d'être à San Francisco avec une gang d'entrepreneurs, des amis, où est-ce qu'on a passé une semaine extraordinaire, Joe, à rencontrer des gens, faire des activités business, faire des activités un petit peu plus, on pourrait dire, orientées sur le loisir. Comment as-tu trouvé ta semaine jusqu'à maintenant? Ça fait quelques jours maintenant qu'on est ici.
Ben, premièrement, je veux juste te dire, avant de parler de ma semaine, je trouve ça déstabilisant de faire ça en présentiel. On est toujours habitué d'être devant une écran.
Ouais, exact.
Donc, c'est une expérience différente. Vous allez peut-être le voir si on pousse le fil vidéo. On a
bien
vraiment
sûr.
Une belle vue. On est dans les montagnes à l'heure actuelle. Super semaine jusqu'à là. Une semaine quand même assez spéciale parce que c'est notre dernière retraite également avec le groupe d'entrepreneurs. Antoine a déjà mentionné dans un précédent podcast qu'il quittait le groupe et je sors publiquement aujourd'hui que je quitte le groupe aussi. Donc, un mix de très belles semaines en termes de qualité des discussions qu'on a eues entre autres ensemble, individuellement aussi avec tout le monde, les discussions de groupe super intéressantes, les rencontres aussi qu'on a faites à l'extérieur, comme aujourd'hui, on a été visiter les installations de Google. On a eu un beau group discussion avec des gens chez Google. Fait que moi, ça m'emballe énormément. Je reviens plein d'idées. Je reviens motivé. Puis, c'est toujours des discussions qui sont intéressantes en profondeur. Enfin, on a le temps vraiment de jaser longtemps, d'aller vraiment dans les détails pour voir ce qui se passe chacun de son côté puis comment on peut s'entraider aussi à travers ça. De mon côté, super belle semaine. Et là, c'est ma 8e retraite, je pense, IO. 7e ou 8e retraite, IO. Et à chaque fois, c'est tellement tout le temps différent. Mais je reviens toujours avec quelque chose de plus à la maison à la prochaine étape.
Puis pourquoi on vous dit ça aussi aujourd'hui pour les gens qui nous écoutent? On le sait, c'est des gens d'affaires qui nous écoutent sur le podcast. On vous encourage, si vous ne l'avez pas fait encore. On avait fait un podcast à un certain moment où est-ce qu'on parlait des regroupements d'affaires. J'avais reçu beaucoup de messages sur LinkedIn et par email, comme quoi les gens me demandaient avec quel groupe Antoine tu fais affaire, tout ça. C'est ça. Je m'étais pas tellement avancé parce que pour plusieurs raisons, on mettait fin un peu au regroupement d'affaires. On n'habite pas nécessairement au même endroit. Je pense qu'on est tous un petit peu à des endroits différents dans nos entreprises. Je pense que Joe et moi, on va peut-être se recréer un petit groupe, mais ça sera pour autre chose. Mais c'est vraiment pour que les gens qui nous écoutent aujourd'hui, même si on dit qu'on quitte, vous avez même pas idée la valeur que tu as dans ces retraites-là. Si c'était nous, ça serait uniquement des retraites, un peu les rencontres, les discussions qu'on aurait, parce que pendant ces 3-4 jours-là qui sont excessivement intenses en termes d'activité, tu peux te débloquer. Tu peux débloquer des enjeux avec ta business. Tu peux débloquer des enjeux personnels que tu peux avoir. Tu peux avoir une nouvelle vue sur des choses que tu n'aurais pas quand tu parles simplement avec les proches au quotidien parce qu'ils vivent pas la même réalité que toi. On le sait, hein, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, on est des bébites un petit peu à part. On veut juste parler de business, on veut juste parler de croissance. Et quand on discute avec des gens de notre entourage, des fois, ils nous trouvent fous de simplement penser à ça. Et quand on se retrouve tous ensemble, c'est là qu'on se rend compte à quel point c'est énergisant de parler de ça parce qu'on partage la même passion. Donc, si vous avez pas eu la chance encore de peut-être bâtir ce regroupement d'affaires-là, IO est un bon endroit. Je pense qu'on parlait brièvement. Il y a YPO qui est un bon endroit également si on a des organisations qui font dans les 8 chiffres de revenus, qui très souvent, je pense, de la reprise d'entreprise. Mais tout de même, c'est des bons groupes à garder en tête. Tentez-le, ça peut valoir la peine puis ça crée des très belles rencontres également du même coup.
Il existe aussi au Québec le groupe Entre Chefs qui était précédemment le groupement des chefs que j'entends encore beaucoup parler, qui semble quand même très actif. Fait qu'un autre beau groupe, je pense que ça vaut la peine d'explorer. Si vous êtes en technologie aussi, il y a l'Association québécoise de technologie qui est très active, que j'ai la chance d'être dans un groupe aussi.
Bien sûr, et j'invite les gens qui nous écoutent aujourd'hui, si vous avez la chance de peut-être venir m'écrire sur LinkedIn ou par email, vous allez voir mon email et dans les notes de l'épisode ou même à Jonathan, aimeriez-vous une fois, ça pourra devenir plus par la suite, mais on va commencer par une fois, un regroupement avec les gens qui écoutent le podcast Hyper Croissance. Une soirée, un 5 à 7, où est-ce que des gens qui écoutent le podcast. On reçoit beaucoup de messages de monde d'affaires. Je serais curieux de vous entendre un petit peu là-dessus. Donc, si ça vous intéresserait qu'il y ait un regroupement, on pourrait faire peut-être une soirée de podcast avec d'autres personnes qui sont là, des rencontres, bref, un événement un petit peu 5 à 7 à Montréal, à Québec, mais clairement au Canada, ça c'est certain. Si ça vous intéresse, envoyez-nous un petit message sur LinkedIn et parlez-nous-en par email. Je pense que ça pourrait être intéressant. Je rebondirais là-dessus, Jonathan. On fait-tu un petit survol de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? Donc, on est à San Francisco, à Milk Valley, au moment où on se parle. Donc, on est peut-être à peu près à 30 minutes de San Francisco. On vient de passer la journée aujourd'hui dans la Silicon Valley, au bureau de Google. On a passé également les derniers jours à faire des activités un peu en plein air, des trails, des visites de vignobles, des grosses activités de groupe très intenses au niveau de discussion d'affaires. Qu'est-ce qui t'a marqué jusqu'à maintenant? Peut-être tu pourrais nous dire un petit peu ce qui a marqué ton imaginaire et je donnerai mon avis sur la même chose par la suite.
Je commençais peut-être avec la rencontre avec Google cet après-midi. Je donnerais ma vue réelle de Google versus ce que je pensais au niveau du campus était à une opposée complète de ce que j'ai vu aujourd'hui. C'est la même chose pour la ville de San Francisco. Puis j'en parlais tantôt dans le retour dans le véhicule. Moi, j'avais en tête San Francisco, c'était une ville faite en hauteur, très du béton, de la brique et compagnie. Mais mon Dieu, il y a de l'espace, c'est pas en hauteur. Il y a des vallées. On était faire un hike hier avec un coucher de soleil. C'est vraiment incroyable. Mais c'est un peu le même contraste que j'ai vu avec Google. Premièrement, mon Dieu, qu'il y a du monde. C'est incroyable comment il y a du monde. La cafétéria le midi, ça en est quand même un choc. Mais les échanges qu'on a eus avec les gens chez Google aujourd'hui, ça m'a surpris la quantité de gens qui avaient autour de la table de chez Google à entendre notre feedback à nous, ouais, entrepreneurs. Pour une chose, c'est fou comment pour développer une chose, qu'ils doivent mettre tellement de gens autour de ça, mais genre là, c'est pas évident pour eux de connaître vraiment la réalité de ce qui se passe en arrière. Puis ça m'a surpris à quel point qu'ils nous demandaient notre feedback, puis ils nous demandaient c'était quoi notre réalité, et qu'ils n'ont pas cette vue-là. Ils sont tellement en mode macro que c'est super difficile pour eux d'avoir vraiment la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Et ça ne doit pas être évident à la grosseur d'entreprise qu'ils sont, avec la quantité de produits, la quantité de silos dans lesquels ils travaillent. Ça ne doit pas être évident de faire avancer des choses. Moi, c'est ce qui m'a frappé chez Google aujourd'hui. Ils bougent quand même rapidement, mais mon Dieu, ça a l'air d'être un gros bateau. Puis mon Dieu, ça a l'air d'être en mode macro avec beaucoup, beaucoup de monde. Alors que moi, je suis habitué à une petite start-up, faut que ça roule vite. Je suis un haut rouge. Si on paye 200-300 projets pour avancer ça en mode ultra vite, let's go. Là, c'est une réalité complètement différente dans leur écosystème à eux, là.
Ça peut être intéressant aussi de donner un peu de contexte à notre audience. Donc, on a des amis chez Google qui, on leur a demandé, on était à San Francisco, si on pouvait faire un petit tour de leur bureau, présenter ça à nos amis également, notre recommandement d'affaires. Ils nous ont présenté aujourd'hui, on était dans le building du Google Shopping. Donc, pour les gens qui font de la publicité sur Google, vous avez peut-être déjà fait des campagnes shopping, vous avez peut-être déjà acheté des produits avec les campagnes shopping. Et ils ont eu la gentillesse de nous inviter, on a mangé avec eux. Et par la suite, on a eu certaines sessions de contenu, mais clairement, on sentait qu'ils étaient venus chercher du feedback. Nous, dans notre recrutement d'affaires, on est deux agences de marketing. Donc, clairement, eux, ils aiment ça, avoir du feedback des agences, vu qu'on travaille beaucoup avec leurs clients. On avait également plusieurs autres entreprises dans le groupe. Et moi, c'est ce que je dis à Jonathan et à tous mes collègues après la rencontre. Google, Meta également, parce que c'est vraiment des approches très similaires, ils sont excessivement bons pour venir chercher du feedback dans des rencontres. C'est-à-dire que de un, ils te font sentir un peu comme un roi. Soyons honnêtes. La manière qu'ils vont t'accueillir, les cadeaux qu'ils vont te donner, le show de boucan est enclenché. Il y a des petits gâteaux qui t'attendent à tout, dans toutes les différentes salles. Il y a des salles différentes avec des breuvages différents qu'on t'attend. Il y a des nouvelles personnes qui apparaissent pour 15-20 minutes et qui repartent. Ils te posent des questions comme si t'étais la personne la plus importante du monde. Pourquoi? Parce que eux, comme Jonathan l'a si bien dit, ils ont tellement de clients, il y a tellement un volume qu'ils n'ont pas vraiment du feedback terrain. Et on va être très honnête là, et je pense que c'est important de l'être avec les gens qui nous écoutent. Les gens qui sont derrière Google Shopping ou derrière Google Ads, il y a des ingénieurs, il y a des gens en vente, ils présentent bien la plateforme, mais ils l'ont jamais utilisée. Donc, ils connaissent pas vraiment la réalité terrain de rouler des campagnes Google Ads, de la complexité que ça peut être pour une organisation qui n'est pas une agence, qui n'a pas une expertise en marketing numérique, de pouvoir utiliser leurs produits. Et quand on commence à leur expliquer tout ça d'un point de vue d'agence, d'un point de vue d'entreprise, on peut voir les notes qui se prennent et par la suite, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre les notes, les ramener à un niveau hiérarchique un petit peu plus haut et essayer de faire un petit peu des itérations sur le produit. Donc, c'est très intelligent de leur part. Ils sont très bons à le faire. Mais c'est vrai, et moi, c'est le même raisonnement que j'ai eu à chaque fois que j'ai rencontré également les gens chez Meta. Il n'y a pas énormément de contenu des fois et de choses que tu vas apprendre, mais eux, le feedback que tu vas leur donner va complètement pouvoir changer un roadmap de produits pour les 4, 5, 6 prochains mois. Et je pense que ça, c'est important de le comprendre que eux, si on n'est pas là, ils n'auront pas tellement de feedback en temps réel de ce qui se déroule.
Ce que j'aime aussi, c'est prendre ce que j'ai vu cet après-midi puis le transposer dans ma business ou même pour ceux qui nous écoutent de comment vous pouvez le transposer dans vos business, c'est on connaît généralement très bien l'ensemble de notre écosystème parce qu'on l'a souvent bâti en tant que fondateur. puis on a tout dans notre tête. Moi, de voir puis d'arriver dans une rencontre de même où les gens voient juste un petit bout du morceau, mais n'ont pas vraiment utilisé le produit ou la solution ou connaissent pas comment ça se passe plus loin, ça me fait réfléchir à combien il y a de gens dans mon entreprise chez OpenMind qui voient juste un petit bout du morceau puis de la solution qui aurait vraiment avantage à ce qu'on leur permette de passer du temps à être avec le client ou à être sur le terrain pour connaître la réalité du client ou sur le terrain pour connaître la réalité des développeurs ou des product owners. Parce que je pense que dans ma tête à moi, je pars avec une idée préconçue que tout le monde connaît tout parce que moi, je le sais, que je connais l'ensemble de l'écosystème, mais j'aurais probablement avantage d'essayer d'identifier ces blind spots-là dans l'entreprise qui bloquent de la même manière que les gens qu'on a rencontrés aujourd'hui chez Google qui n'ont pas utilisé ces produits-là en réel, mais qui le développent. Là, c'est super difficile pour eux de se mettre dans les souliers de l'utilisateur final. Fait qu'on a probablement beaucoup de zones grises ou de blind spots dans nos propres organisations qu'il y a des gens qui viennent de rentrer ou qui sont même peut-être là depuis 5 ans, qui connaissent même pas la vraie réalité du client ou la vraie réalité des gens en production ou la vraie réalité de la personne qui va livrer le service au bout de la ligne ou qui va utiliser ce qu'on produit ou ce qu'on lit comme service. Fait que, je pense que c'est une réflexion à venir appliquer ça dans nos organisations puis essayer de pousser peut-être cette connaissance-là ou ce boots on the ground-là à un autre niveau.
Bien sûr. Tenez-vous pas trop loin de votre produit. Tenez-vous pas trop loin de vos clients parce que ça peut aller excessivement vite que vous perdez vraiment la réalité avec ce qui se déroule pour de vrai. C'est exactement ce qui peut arriver. C'est qu'on pense qu'ultimement, une entreprise, c'est des chiffres d'affaires, c'est de la profitabilité. Une entreprise, c'est du produit, des clients qui l'achètent. Et tant aussi longtemps que notre produit n'est pas capable de s'améliorer, et si nos clients n'aiment pas davantage ce qu'on fait, bien, ultimement, il n'y en aura plus de chiffre d'affaires, il n'y en aura plus de profitabilité. Donc, d'avoir vraiment ses pieds au sol, de parler avec nos clients, d'aller chercher de l'information, ça peut être très important et ça rend également des discussions qui sont plus pertinentes. Parce que ça, c'est effectivement un point que j'ai vu aujourd'hui. Je pense qu'un autre point également qui est important à mentionner, et j'en parlais avec une de nos collègues qui est Sana dans le groupe, c'est que, soyons honnêtes, n'importe qui que tu vas parler dans ces entreprises-là, on parle ici en l'occurrence de Google, c'est tous des gens excessivement brillants. Je pense qu'on a tous déjà rencontrer des gens dans nos vies, dans le domaine des affaires, où est-ce qu'on leur parlait, on les trouvait très, très brillants. Il y a d'autres fois, on a parlé avec des gens, puis on s'est dit, oh, il me semble que cette personne n'a pas l'air de tellement comprendre rapidement de quoi qu'on est en train de parler. Les gens chez Google aujourd'hui, on va se le dire, le quotient intellectuel dans la salle était quand même assez haut. Et moi, ce que j'expliquais à Sona, c'est que ça doit être une des choses les plus dangereuses pour la simple et bonne raison que du moment que tu rentres des gens un petit peu de moins bonne qualité, que des gens de moins bonne qualité qui s'infiltrent. Parce que ça peut arriver, hein? Les entreprises, des fois, ils peuvent avoir des laissés-aller. Ben là, tu peux avoir un impact excessivement grave sur ta culture. Parce que le brand interne, à mon avis, comment que c'est reconnu à l'interne chez Google, et c'était la même chose quand j'allais dans les bureaux de chez Facebook et chez Meta, mes reps me disaient toujours, à chaque fois que je vais dans une rencontre interne ici, je ressors tout le temps de là et j'ai appris des nouvelles choses que jamais je n'aurais pu penser. Et ça, autant que c'est très puissant, autant que ça doit se préserver. La qualité de tes collègues, le standard que tu exiges de tes collègues est excessivement important et c'est comme ça que tu es capable de faire des organisations qui vont changer le monde. Donc, je pense que c'est un autre point qui peut vraiment frapper ton attention quand tu vas dans ces entreprises-là. Les gens avec qui tu parles, c'est des gens excessivement brillants, de plein de cultures, de plein de milieux différents. Ben, c'est ça qui crée des grandes entreprises, là.
Et moi, c'est une autre chose qui m'a frappé. Tu sais, au Québec, il y a moins de diversité culturelle, je pense, dans nos organisations. Et là, honnêtement, pour 10 personnes qui avaient autour de la table aujourd'hui, c'était 10 nationalités différentes. C'est hallucinant la diversité que je sais pas si c'est un échantillon qui est unique aujourd'hui ce qu'on a vu, mais honnêtement, j'imagine que ça doit être ça à l'entièreté de Google au bout de la ligne. Mais mon Dieu, je pense sur 10 personnes qui avaient autour de la table, il y en avait probablement 10 qui venaient de 10 pays différents, c'est complètement fou, là.
Puis, ils ont des cafétérias un peu partout et la nourriture des cafétérias est ajustée selon les cultures qui travaillent dans différents départements. Donc, pour vous donner un exemple, nous, dans le département Google Shopping, aujourd'hui, soyons honnêtes, sur les centaines d'employés qu'on a vus, 95% d'entre eux devaient être asiatiques, le sud de l'Asie, selon moi. Et la cafétéria du building offrait que des plats de l'Asie du Sud-Est, à peu près. C'est là que je me suis dit à quel point que ces organisations-là sont rendues tellement pointilleuses qu'ils connaissent tous de leurs employés. Puis, c'est un autre point qu'on discutait. Il y avait notre ami Martin qui dit, hey, moi, j'aurais ça dans mes bureaux. Je serais jamais en train de travailler. Je serais toujours en train de manger parce qu'il y a des cafétérias partout. Il y a des, des food trucks un peu partout. Il y a des cafés un petit peu partout. Est-ce qu'on t'offre le breuvage que tu veux?
À volonté.
À volonté.
Ouais, à volonté, c'est
il y a
ça.
Il y a des distributrices pour avoir des laptops. Il y a des distributrices pour avoir des écouteurs. Bref. Et moi, l'argument que je dis à Martin, je dis oui, mais mets-toi à leur place, c'est beaucoup des jeunes, des gens peut-être 25 et 35 ans. Certains d'entre eux ont des familles, d'autres en ont pas. Mais si t'es dans ta vingtaine, puis tu commences ta carrière, puis tu veux te prouver, puis tu veux faire des sous, t'es dans un environnement où est-ce qu'on t'offre le déjeuner, le dîner, le souper et tout ce qui va autour. Et qu'est-ce qui va se dérouler? Le collègue va travailler encore plus longtemps au bureau. Il va vouloir rester au bureau parce que c'est plus facile d'être au bureau que chez soi. Donc, autant que peut-être qu'on peut avoir l'impression que tu vas moins travailler en ayant tout ça, autant qu'ils ont dû faire des calculs et à la grosseur d'entreprise qu'ils ont, ils ont dû faire les calculs de se rendre compte qu'avec toute cette infrastructure intégrée à même l'organisation, à même les bureaux, les employés doivent rester un peu plus longtemps et travailler un peu plus fort, là.
Et moi, je vais avoir une question pour toi parce que je pense que tu as eu la chance de visiter les bureaux à quelques reprises de Meta. Moi, c'était la première fois que je visitais les bureaux d'une grande entreprise.
Une grande tech, ouais.
Ça, donc, j'ai pas l'expérience d'avoir vu Meta. Je m'attendais chez Google qu'il y ait peut-être un peu plus de feu d'artifice au niveau de la grosseur des logos à l'extérieur. C'est impressionnant, là. Je m'étais vu dans ma tête que ça serait un autre niveau. On a de la difficulté à se prendre une photo de l'extérieur avec un logo de Google. Il semble être très discret là-dessus. Tu as vu les bureaux de Meta, je pense, avant la pandémie, si je me trompe pas?
J'ai vu les bureaux. Donc, je suis allé au bureau de Meta 2 ou 3 fois à Chicago, des très, très gros bureaux. Qui sont les bureaux orientés pour les équipes de vente et de marketing. Ils doivent être assez désertiques maintenant avec les renvois qu'ils ont fait l'année dernière. Je suis allé au bureau à New York, bureau exceptionnel qui est fait en hauteur, c'est assez impressionnant. Je suis allé au bureau en Californie, à Palo Alto.
Avant pandémie ou après?
Je suis allé l'année dernière, donc 2022 à Palo Alto. Les autres, c'était avant la pandémie, effectivement.
Parce que ma question serait, lequel des deux est plus flamboyant? Puis est-ce qu'il y a une différence avant ou après pandémie? Là, c'est de ramener ça plus...
Ouais, ben je pense qu'à la défense peut-être de Google aujourd'hui, je crois qu'ils nous ont fait bon, on était dans la Silicon Valley aujourd'hui, il pleuvait, c'était vraiment pas une belle température. Donc souvent c'est des endroits que tu peux, c'est comme une petite ville hein, pour les gens qui ne le savent pas, qui sont jamais allés, j'imagine qu'il y a pas beaucoup de gens non plus qui sont allés à Mountain View où est-ce que Google est installé, c'est comme une petite ville. Donc littéralement, c'est pas un gros campus, c'est littéralement des rues et des rues et des rues avec plein de campus de Google à droite à gauche. Donc, à leur défense, peut-être que ce n'était pas flamboyant aujourd'hui parce qu'on est allé simplement dans un building. On n'est pas allé dans le building principal de Mountain View. Donc, c'est peut-être ça qui a moins capté ton attention. Mais clairement, quand la dernière fois que je suis allé dans les bureaux de Meta en Californie, là, on était, on pourrait dire, pardonnez-moi l'anglicisme, là, mais au main spot. C'est-à-dire qu'on a tout vu ce qu'on devait voir, les terrasses extérieures qui sont totalement flamboyantes, les vingtaines de cafétérias à l'intérieur de l'entreprise. Encore une fois, tout ce que j'ai mentionné, les distributrices à laptop, etc. Donc, je crois que les bureaux de Meta m'ont plus impressionné, mais encore une fois, c'est parce qu'on était dans le principal. Je pense qu'aujourd'hui, chez Google, on n'était pas dans le principal. Mais si on avait été vraiment dans l'endroit qui impressionne les gens, peut-être que ta mâchoire aurait tombé un peu plus, là.
Je lance une question à froid qu'on n'a pas préparée à l'avance.
Je t'écoute.
Avec quoi que tu repars de la retraite en une phrase ou deux que tu vas changer ou que tu vas appliquer ou faire une différence?
Mais je pense que la première chose, c'est l'importance de passer du temps en face à face avec d'autres entrepreneurs. Donc, notre dernière retraite datait d'il y a un an, ça doit faire à peu près un an qu'on s'est mis en face à face. Aussi, Joe, si ma mémoire est bonne, il faut le faire plus souvent. Je pense qu'il y a vraiment, sans nécessairement dire que je vais tout changer ce que je veux faire dans mon entreprise, parce que ce serait quand même dangereux d'aller à une retraite et d'arriver à tout changer mon entreprise. J'ai certains point que je vais aller challenger un petit peu, mais c'est surtout ressourçant. Tu t'en viens challenger des problématiques que tu as dans ton entreprise, tu te rends compte que les autres personnes ont les mêmes problématiques, mais on peut-être amener des solutions différentes, ça peut t'ouvrir des idées. Je pense que je sous-estime encore à ce jour l'importance d'avoir des échanges de qualité en face à face. Et ça, bon, bien entendu, sachant maintenant que j'habite en Europe, c'est plus compliqué de rester dans ce groupe-là, c'est pour ça que je l'ai quitté, mais si j'ai la possibilité dans la prochaine année de faire plus de voyages, plus de rencontres, plus de retraites, que ce soit 2, 3 jours, une semaine, je vais le faire. Parce que ça, c'est excessivement bon pour ta santé mentale, bon pour tes idées. Donc, je pense que ça serait ça vraiment qui me vient en tête. Parce que là, je pars aussi dans une optique de me dire, c'est quoi la suite? C'est avec qui je vais passer du temps? Et si je me pose pas des questions rapidement à savoir avec qui je vais échanger, pas simplement en Zoom, parce que ça, on est capable de le faire via des podcasts, mais en face à face, je risque de trouver le temps long en 2024-2025. Et je suis content d'avoir ça parce que ça me rappelle l'importance de le faire. Et je pense que très souvent, on sous-estime ça, les entrepreneurs. On reste dans notre petit cocon, on reste dans notre entreprise, on sort pas assez, on pose pas assez de questions. Puis finalement, les problématiques qu'on a, d'autres personnes les ont eues et ont eu des très bonnes solutions à ça dans le passé. Mais est-ce que tu peux vraiment trouver ces solutions-là uniquement en lisant des livres? Car soyons honnêtes, c'est souvent dans des conversations que ça va débloquer. Donc, ça serait ça de mon côté. Je te renvoie la question. Qu'est-ce qui ressort de ton côté, peut-être?
J'ai trois mots que je ressors, qui est confort, contrainte et cadre. Avec les trois C, on a eu la chance de faire une longue marche sous la pluie, toi et moi, Antoine.
Sur le Golden Bridge. Sur le Golden Bridge, on a fait le Golden Bridge au complet. Il pleuvait à Sio. C'était une expérience intéressante.
Et le premier mot confort, c'est, je me rends compte, puis je pense que c'est un peu le même concept pour plusieurs entrepreneurs dans le groupe dans lequel on est, c'est qu'à travers le temps, on accumule un certain confort dans sa vie personnelle, autant au niveau financier de comment on organise notre vie, et on devient un peu moins affamé d'avancer, on devient peut-être un petit peu moins motivé à mettre des efforts, puis je pense que ça peut être dangereux après un certain temps. Et moi, je me rends compte de ça à travers le temps en avançant. Je me suis créé une vie qui est très confortable. Puis là, il faut que je sorte un peu de mon confort quotidien.
Faut pas rester trop longtemps dans notre prison dorée.
Oui, exactement. C'est en plein ça. Donc, ce qui m'amène à mon deuxième mot, c'est de se créer des contraintes pour être capable vraiment d'être motivé puis de se dire, OK, faut absolument que je réussisse à atteindre cet objectif-là puis à défoncer cette porte-là ou cette barrière-là. Et non juste se dire, j'en ai assez, je suis libre financièrement ou peu importe. Ces deux mots-là, c'est sûr que ça va me résonner longtemps dans les prochains mois, de dire, OK, comment je peux essayer de m'éloigner un peu de mon confort puis de me créer des contraintes pour aller rechercher encore plus de motivation? Parce que quand on part en affaires, on a zéro confort, on a juste des contraintes puis on a le couteau dans les dents puis pour aller défoncer des portes. Donc, confort et contraintes, ça va être quelque chose avec le quoi je vais repartir. Puis mon année 2024 tourne beaucoup autour du thème du focus. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de décisions difficiles. Entrepreneurial que je prends et personnel qui va venir justement m'assurer que j'ai plus de focus puis que je me mette un peu plus en danger au niveau de mon confort puis je me crée des contraintes pour que faut absolument j'atteigne ces objectifs-là puis je défonce ces portes-là, sinon ça va être problématique. Et mon troisième C qui était le cadre, je pense que si on était parti une gang d'humains ensemble avec la même échelle de temps au même endroit, mais qu'on n'avait pas mis un cadre clair et défini, je pense pas qu'on aurait eu la même résultat au bout de la ligne. On est venu avec un cadre de « on vient ici pour affaires » sous le thème de la confidentialité, sous le thème de la vulnérabilité, sous le thème de « il n'y a pas d'ego ». Et ça nous a amené à discuter d'un paquet de choses qu'on ferait jamais avec n'importe quel autre humain au bout de la ligne. Et le cadre était là pour dire n'importe quelle question ou de business ou personnel qu'on se pose, que généralement on n'est pas capable de poser à l'autre humain, ici on s'est donné le cadre puis la latitude de pouvoir se le poser. Combien de fois c'est arrivé que on s'est posé une question, on dit « Hey gang, j'aimerais ça avoir votre brain sur un sujet aussi
bien sûr.
Que j'ai. » Hier, on était faire un hike ensemble, on s'est perdu dans la montagne.
mais la vue était magnifique. La vue était magnifique.
Qui dirait qu'il n'y aurait pas de signal de l'autre côté de la montagne pour appeler un Uber pendant qu'il fait noir? On l'avait pas prévu à San Francisco. Ouais. Dans ma tête, c'est super urbanisé, il y a du signal partout. Mais à deux, trois reprises, on avait le temps de se poser la question, de dire « Hey, j'aimerais ça vous lancer une question pour avoir votre avis sur tel sujet qui est business personnel. » Jamais on fait ça parce que ce cadre-là n'apparaît jamais dans aucune autre interaction avec pratiquement aucun autre humain dans notre quotidien. Fait que l'importance de prendre du temps avec des gens de qualité, mais de mettre un cadre qui est bien défini pour laisser la place au sujet qu'on va aller creuser, bien c'est ça que une retraite d'entrepreneur comme celle-ci permet de faire. Donc, c'est les trois choses que je ressors: confort, contrainte et cadre. Si j'amène le côté cadre dans mon quotidien, c'est après ça, qu'est-ce que je peux faire avec ma gang, avec mes équipes? Voilà, je pars avec les trois C. Confort, contrainte et les cadrages. Voilà.
Ta réponse était pas mal meilleure que la mienne, mais je suis obligé d'acquiescer avec tout ce que tu dis. Effectivement, j'aimerais rebondir sur ton deuxième C, le C de contrainte. Je pense que c'est un contenu que j'avais consommé de Alex Hormozy qui avait mentionné ça un petit peu, le terme contrainte, bref. Mais dans la manière que j'avais interprété, c'est que on a des objectifs en tant qu'entrepreneur et si on est assez patient, résilient, qu'on a assez de persévérance, bien vous savez quoi, on risque de les atteindre, ces objectifs-là. Souvent, ça va prendre plus de temps que ce qu'on a prévu, mais on risque de l'atteindre parce que c'est ça l'entrepreneurship, c'est à avoir des grands objectifs. Des fois, ça peut être des plus petits objectifs. Et à force de faire les bonnes choses, jour après jour, ultimement, on est capable d'atteindre ces objectifs-là. Et l'enjeu qui se déroule très souvent, c'est quand l'objectif est atteint. Il y a un certain vide qui peut se créer, un certain confort qui peut se créer, comme Jonathan le dit. Et ça, en toute honnêteté, c'est ce qu'il y a de plus dangereux. Parce que la raison pourquoi vous êtes à l'endroit que vous êtes avec votre organisation aujourd'hui, la raison pourquoi je suis où est-ce que je suis aujourd'hui et que tu es à l'endroit où tu es aujourd'hui, là, on n'est pas en train de dire qu'on est dans des endroits extraordinaires, mais quand tu atteins un certain niveau en affaires, c'est à cause des actions passées que tu fais, pas les actions d'aujourd'hui. Tu as semé pendant des mois, pendant des années et plusieurs années, mois plus tard, tu es capable de récolter les fruits de ce que tu as semé et avoir un certain succès. Mais quand l'objectif est atteint et que tu arrêtes de semer, mais l'enjeu, c'est que c'est pas aujourd'hui que vous allez le sentir, mais dans un an ou deux ans. Et là, vous allez vous dire, pourquoi je me suis retrouvé là? Pourquoi mon entreprise a fait de la décroissance? Pourquoi mon entreprise a plus autant de profitabilité? Pourquoi je suis juste plus en affaires? Et là, posez-vous des questions. Est-ce que dans les deux dernières années, vous êtes créé assez de contraintes? Et soyons honnêtes, le monde capitaliste nous oblige à faire de la croissance. Si notre organisation ne fait pas de croissance, je suis obligé de vous le dire, elle fait de la décroissance. On peut faire de la stagnation pendant un certain temps, salarié. Il faut toujours avoir l'idée d'aller rechercher cette croissance-là parce que si on le fait pas, le monde capitaliste fait en sorte que quelqu'un d'autre va venir la prendre à votre place, cette croissance-là. Après, il peut y avoir un débat philosophique à savoir si la croissance infinie, c'est bon ou c'est pas bon. On pourra ouvrir le débat quand vous voudrez, mais là, on est là pour parler d'affaires, on n'est pas là pour parler de d'autres choses. Mais dans le monde des affaires, il faut faire de la croissance. Et c'est pas mal plus facile de faire de la croissance quand t'as rien, parce que là, t'as tout à gagner, t'as rien à perdre. Et quand t'as eu certaines victoires et que là, t'as plus à perdre, ben des fois, peut-être tu prends pas les mêmes risques et ça peut t'amener dans des endroits plus difficiles. Donc, se créer des contraintes est excessivement important. Et je rajouterais même que c'est pas à cause que vous avez atteint votre objectif que là, faut tout de suite se lancer une autre entreprise puis sortir de Defocus. Vous pouvez vous créer des contraintes à même votre entreprise, que ce soit des objectifs ou que ce soit même de faire des choses plus rapidement et de travailler moins dans votre entreprise. Ça peut être une contrainte tant aussi longtemps que les chiffres à la fin de l'année font du sens et vous amènent en croissance. Effectivement, si on reste dans notre confort puis on ne se crée pas assez de contraintes, on va peut-être le payer cher dans quelques années.
Le concept de croissance, par contre, apporte, on a jasé aujourd'hui du concept d'escalier, de marche, de se dire, dans un stade qui est inconfortable parce que je me suis structuré pour aller à la prochaine marche. Une bonne discussion dans le véhicule aujourd'hui à propos de ça.
Et on pourrait la décortiquer un petit peu pour l'audience. Donc, on était dans le véhicule, on parlait avec un de nos collègues dans le forum qui est en train de faire une très belle croissance. Il y a un objectif d'atteindre 100 millions avec son entreprise d'ici à peu près 3 ans, je pense. Puis on parlait également de notre structure de croissance. Puis ce qu'on expliquait, c'est si tu veux atteindre le prochain niveau de croissance, pendant certains temps, ça va venir affecter considérablement la ligne du bas pour des raisons évidentes. Tu es en train de construire de l'infrastructure qui va payer dans 1 an ou 2 ans ou dans 3 ans. Pour les gens dans le service, des fois, on s'en rend pas compte. Mais là, oui, faut engager 5-10 personnes qui seront pas rentables aujourd'hui, mais qui vont peut-être l'être dans 6 mois, 1 an. C'est comme si vous êtes une entreprise en ligne et que là, vous prévoyez de la grosse croissance, vous allez acheter 2 à 3 fois plus d'inventaire qu'à l'habitude. Et là, à court terme, ça va impacter votre cash flow. Et quand tu es dans cette vision de croissance-là, ultimement, ça peut prendre un certain temps et ça peut coûter un certain montant d'argent. Mais à un moment donné, vous allez atteindre l'objectif que vous vous êtes donné. Et si vous avez fait des bons calculs mathématiques, cet objectif-là va vous amener une entreprise plus saine, plus profitable, plus rentable. Et là, vient la question de se dire, est-ce que je passe maintenant au prochain niveau ou j'arrête? Et arrêter ici veut essentiellement dire, est-ce que je vends l'entreprise? Et ça, je pense que on doit tous se poser des questions-là. Si on a un objectif grandiose qu'on veut atteindre et qu'on l'atteint, avant de tout de suite se dire, on passe au prochain, il faut se poser des questions parce que là, on est peut-être en période d'accalmie, remettre un petit peu plus de profitabilité dans l'entreprise et de se poser des questions. C'est quoi le prochain chapitre, là?
Je vois le temps qui file, Antoine.
Oui.
Et je vois également que ça commence à être noir.
Donc, les gens qui vont écouter la vidéo, vous allez voir, ça sera pas le meilleur vidéo que vous aurez vu sur le podcast Hypercroissance. Mais Joe, toujours un plaisir de faire ces discussions-là qui étaient clairement improvisées, on va se le dire. Des choses à rajouter avant que je te laisse filer?
Complet, mais merci, Antoine, pour ton passage dans le groupe d'affaires. On quitte les deux en même temps.
Et pour les gens qui nous écoutent, si vous êtes intéressé à une rencontre à Montréal, un souper, on va juste tenter l'intérêt. On vous dit pas qu'on va le faire, on va tenter l'intérêt. Très simplement, on met le lien de nos profils LinkedIn à moi et à Jonathan. Si on reçoit un nombre conséquent de messages de gens qui disent « Oui, moi, je veux venir pour un souper », La manière que je le verrais, c'est qu'on réserve un restaurant, on réserve une grande salle d'une dizaine de personnes, on se fait un bon souper, puis on discute business. OK? Puis on discute business. Est-ce qu'on ferait une présentation? Est-ce qu'on ferait un podcast sur place? À voir, c'est une idée embryonnaire qui vient de me sortir de la tête. Je vais passer un petit peu de temps à Montréal dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc, si on a assez de réponses, on va organiser quelque chose puis on se fera un petit souper à Montréal. Donc, écrivez-nous sur LinkedIn si ça vous intéresse. Dites-nous spécifiquement, Antoine, Jonathan, j'écoute votre podcast, je serais intéressé au souper et on pourra en discuter ensemble. Joe, merci d'avoir été avec nous. Pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.